Hello Châtillon, bienvenue à Châtillon Bouge, le premier podcast qui met en lumière notre ville et ses acteurs. Bonjour Yannick, bienvenue pour notre sixième épisode.
Bonjour Yasmine, avec un plaisir. Bonjour chers habitants des Châtillons. Comme à chaque fois, nous avons préparé un moment riche en informations culturelles, en découvertes et un peu de musique. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous sommes très heureuses parce qu'on va plonger dans un événement qui me tient à cœur. C'est la Journée internationale des droits de la femme.
Oui, à l'occasion du 8 mars, nous avons concocté un programme spécial. Donc nous avons des invités qui vont nous partager leur parcours, leurs défis, ce qui les inspire, et puis également échanger autour des challenges actuels et des défis qu'elles ont dans leur quotidien et dans leur parcours professionnel et personnel.
On va faire une belle émission avec des femmes. Et nous-mêmes, on va parler de nous, je pense, dans l'émission.
D'ailleurs, commençons tout de suite. Alors, on va vous présenter Caroline et Aurélie aujourd'hui, qui ont accepté de nous rejoindre pour cette émission spéciale 8 mars. Je vous laisse écouter notre discussion avec Caroline et Aurélie, et puis nous reviendrons sur les actualités culturelles de la ville juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la Journée internationale des droits des femmes. En ce 8 mars, nous avons le plaisir d'accueillir des invités spéciales, des invités inspirantes, venues partager avec nous leurs expériences, leurs réussites et les défis qu'elles ont rencontrés.
Les 8 mars, c'est bien plus qu'une date. C'est une journée pour célébrer les avancées, mais aussi pour rappeler l'égalité qui est un combat de tous les jours. On commence de discuter avec celles qui, par leur parcours et leur engagement, font bouger les lignes.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons connaissance avec nos invités du jour. On vous propose un petit tour de table. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Ce que vous faites? Et qu'est-ce qui vous passionne dans la vie?
Bonjour, moi je m'appelle Aurélie, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, je suis statisticienne dans l'industrie pharmaceutique. Et quand j'essaye de réfléchir à une passion, je dirais j'aime bien lire, mais c'est parce que c'est la seule chose que j'ai le temps de faire. Voilà.
C'est quoi ton roman préféré?
J'aime bien Jeanne R.
Ah oui. Je comprends.
Et je suis Caroline Pelletier-Villermet et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et mon projet particulièrement, c'est la reconversion professionnelle en ce moment avec le théâtre d'improvisation et la formation. Et par ailleurs, à titre personnel, je suis maman de deux garçons de 12 et 15 ans et châtillonnaise depuis de nombreuses années.
Bienvenue à toutes les deux. En cette journée, on est très contentes de vous avoir. Alors, il faut savoir que nous connaissons Caroline à travers les cours de théâtre d'improvisation qu'elle nous faisons toutes les semaines. Et puis, Aurélie est une amie. Et puis, il se trouve qu'elle travaille aussi dans l'industrie pharmaceutique. Comme moi. Aujourd'hui, on va vous parler de femmes, donc on va également parler de nous. Oui. Moi, Yasmine, donc je suis également châtillonnaise, j'ai 33 ans, j'habite à Châtillon depuis quelques années aussi, et j'ai deux filles de 5 et de 2 ans.
Alors moi, c'est Yannivis, j'ai 43 ans, je suis châtillonnaise, et j'ai un petit garçon qui a 5 ans, et je travaille dans les secteurs de l'automobile.
Alors aujourd'hui, on a des parcours variés dont on va parler. On est très contente aujourd'hui de faire cette table ronde un peu voix des femmes et histoire de parcours. Et on aimerait aujourd'hui aussi partager des parcours différents, des parcours de vie ou des parcours professionnels. On va avoir quelques questions pour que chacun puisse se présenter. On va commencer peut-être par une question rapide, Yannick.
Carrément.
Question du jour.
On est le vif du sujet. Mesdames, qu'est-ce que signifie le 8 mars pour vous personnellement?
Le 8 mars, évidemment, la journée internationale du droit des femmes. Et je dirais les femmes à l'honneur. Les femmes à l'honneur dans le monde, pas qu'en France. Surtout le droit des femmes, parce qu'on a tendance à l'oublier et transformer ça, on va dire, en journée un peu marketing sur un soutien-gorge acheté, une culotte offerte.
Et des roses.
Des roses de préférence. Moi, j'aime à penser que c'est vraiment une journée importante pour les femmes. Et avoir une pensée aussi pour les femmes qui n'ont pas forcément les mêmes droits que nous en France. On a quand même une grande liberté d'expression, de travailler, de se mouvoir. Et voilà, une big pensée pour les femmes dans le monde qui ne sont plus libres.
Oui, puis surtout dans le contexte actuel, on voit un recul de certains droits des femmes dans des pays qui avant étaient plus ouverts à ces droits-là. Il est important de se rappeler, d'avoir une pensée aussi aux autres femmes à travers le monde.
Tout à fait.
Ouais. Et toi Aurélie, alors?
Moi de mon côté, je dirais qu'en général, c'est vraiment l'occasion de discuter beaucoup, parce qu'il y a pas mal d'hommes qui pensent qu'on n'a pas besoin d'une journée des femmes, en tout cas en France. Et donc voilà, en général, on discute pour rappeler aussi les inégalités auxquelles on fait face. Et d'un point de vue plus personnel, c'est le jour du bisou avec ma fille. On en profite pour demander plein de bisous à tout le monde en disant « mais c'est notre journée à nous, il faut qu'on en profite ».
C'est un bon rituel, moi j'aime bien. Mmh. C'est vrai que c'est une journée particulière et je trouve que la transmission fait partie aussi de cette journée, la transmission à d'autres femmes ou à nos filles ou à nos camarades, selon...
Oui. C'est une journée aussi pour rappeler les avancées en droit de la femme qu'on a eues, parce qu'il y a, y a eu un long chemin des combats et des femmes qui sont battues pour qu'aujourd'hui on a beaucoup de droits. Oui. Et c'est une journée pour célébrer ça aussi.
Donc, en parlant d'avancées, du coup, quelles sont les avancées des droits des femmes qui vous ont le plus marqué et quelles batailles, à votre avis, restent encore à mener ?
Je dirais qu'en France, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est le droit de vote, le droit aussi d'avoir son propre compte bancaire. Enfin, voilà, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, je pense que voilà, l'indépendance, l'autonomie des femmes en France, c'est vraiment important. Puis, je pense aussi aux femmes dans le monde et entre autres aux petites filles. Voilà, le droit de ne pas être excisées, de respecter leur intégrité et leur intimité.
C'est vrai que ça fait à peu près 80 ans qu'on a le droit de vote, c'est pas si longtemps. Donc en France, il a fallu attendre donc, le 21 avril 1944 quand même pour que les femmes obtiennent le droit de voter et de se présenter à une élection. Donc c'est après plus de 150 ans de mobilisation civique. Donc pour un droit qui... Voilà, maintenant aujourd'hui, on en jouit, parfois on l'utilise ou pas, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui se sont battues pendant très longtemps pour qu'on puisse avoir ce droit-là.
Tout à fait. Et le droit également à l'avortement avec la loi Simone Veil, qui est vraiment essentielle à rappeler parce que malheureusement, dans des pays ultra civilisés, malheureusement, on est en train de reculer sur cette notion-là et je pense que c'est vraiment primordial pour la liberté des femmes de pouvoir choisir d'avoir un enfant ou pas, enfin pour les femmes et les couples.
D'ailleurs, en 2024, l'IVG en tant que liberté fondamentale a été inscrite au sein de la Constitution française, donc c'était une actualité aussi qui a beaucoup fait parler, surtout encore une fois vu ce qui se passe dans le monde, donc c'est quand même, ça reste quand même une avancée pour concrétiser ce droit et puis peut-être le protéger au vu des changements qui se passent actuellement dans la société.
Tout à fait.
Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Et puis c'est vrai que moi j'ai tout de suite pensé au droit de vote. Je pense qu'au-delà de ça aussi le fait qu'on puisse faire des études, qu'on puisse choisir son métier, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que quand on pense droit des femmes, on pense tout de suite à indépendance et à choix de vie. Et ça c'était aussi quelque chose d'important. Et je pense que les avancées à venir, en tout cas au niveau national, ça va aussi être tout ce qui est lié au salaire. Mais aussi tout ce qui est toujours à cette indépendance, à la distribution des tâches, la charge mentale, je pense qu'on en reparlera après. Mais ça, c'est aussi des vrais sujets. Ça paraît assez trivial par rapport au droit de vote ou à l'IVG, mais je pense que c'est des choses fondamentales et qui ont un vrai impact quotidien aussi.
Oui, tout à fait. Sur la vie quotidienne, effectivement, la répartition des tâches, dont on ne parlait quasiment jamais avant, en fait. Ça fait que quelques années qu'on parle de charge mentale pour les femmes.
Oui, même les publicités, quand on voyait les publicités avant, on voyait que les femmes étaient à la cuisine, les hommes au volant des voitures. Et on voit que ça a évolué.
Noël.
Ça a évolué vachement parce qu'aujourd'hui, les femmes dans les publicités sont au volant des voitures et on n'en parle plus de la femme qui fait le ménage et qui passe l'aspirateur. C'est vachement une avancée, je trouve. Aussi.
Tout à fait.
Puis c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que les femmes puissent maintenant faire des études ou des métiers qu'elles ne faisaient pas avant. Et c'est vraiment le cas. Et en parlant de ça, je pense notamment aux femmes chefs d'entreprise. C'est vrai que moins de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Et je reviens vers toi, Caroline. Est-ce que pour toi, comment tu as vécu cette expérience quand tu t'es lancée en tant que femme? Est-ce que tu as vu des différences? Est-ce que tu connais beaucoup d'autres femmes entrepreneurs autour de toi également?
Justement, c'était un point que je souhaitais aborder parce que chez les femmes, entre autres dans l'entrepreneuriat, il y a 30% de femmes en moins dans l'entrepreneuriat par rapport aux hommes, alors que on est à peu près à 50-50 au niveau de la population. Donc il y a encore de gros efforts à faire et beaucoup de soutien à donner, à offrir pour les femmes entrepreneurs qui se lancent ou qui ont déjà une entreprise, qui mènent souvent de front également une vie de famille, qui sont souvent charge de famille un peu plus que les hommes, même quand elles sont en couple. En famille monoparentale, c'est encore plus flagrant, puisque une semaine sur deux, voire plus, les femmes portent la charge de famille et leur entreprise. Et donc pour ça, moi, j'ai fait le choix de rejoindre des associations de soutien aux femmes entrepreneurs, entre autres Femmes des Territoires, qui est une association nationale qui rassemble les femmes entrepreneurs dans un esprit de bienveillance, de sororité, de soutien, d'échange. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de se sentir soutenue et de pouvoir parler entre femmes de nos problématiques et de pouvoir être ensemble.
Oui, puis il y a des charges aussi additionnelles en tant que femme. Souvent, on parle aussi de charges financières invisibles, le fait que les femmes aussi, financièrement, maintenant, elles s'impliquent beaucoup plus. Et puis, le fait que derrière, elles perdent aussi à travers leur implication dans la famille certaines évolutions de carrière ou certains avantages financiers à travers leur grossesse ou leur parcours de vie. Mais du coup, l'équilibre n'y est pas forcément financièrement non plus, pas que en termes de charge mentale ou en termes d'évolution professionnelle. C'est aussi beaucoup de sujets qui restent à couvrir.
Pendant le Covid, une femme en Allemagne qui avait fait des factures de ce qu'elle a, du temps qu'elle avait passé avec ses enfants en les gardant et en faisant à manger. Et elle avait envoyé les factures au gouvernement de l'Allemagne pour montrer en fait que les femmes, elles avaient non seulement le travail, mais aussi des autres occupations et qu'en fait, c'était quelque chose qui n'est pas payé ni valorisé. Et ça fait tout un mouvement en Allemagne à l'époque qui après ça s'est arrêté parce qu'elles ont eu vraiment des retours très négatifs. Au début c'était vraiment de l'appui et après des retours très négatifs. Vous aimez pas vos enfants, vous voulez pas être auprès de vos enfants et en fait je trouve qu'il y a beaucoup de choses aussi à avoir dans la mentalité des gens.
Tout à fait. Et je trouve ça dommage, effectivement, que parfois, il y ait du jugement sur le fait de revendiquer nos droits, de pouvoir avoir plus d'autonomie, de liberté, de soutien. Je trouve que ce serait vraiment essentiel que les hommes rallient aussi la cause des femmes, se rendent compte simplement qu'on n'est pas là pour les juger, pour les agresser, ou pour dire qu'ils font pas ci ou qu'ils font pas ça, mais juste d'être dans l'empathie avec la cause des femmes, pour se rendre compte que oui, il y a des choses qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, et c'est pas forcément pour les desservir, au contraire, ça peut être justement un moyen de rétablir du dialogue, de l'égalité dans tous les domaines, et de pouvoir vivre ensemble le mieux possible.
Et c'est vrai que c'est un discours qui se fait de plus en plus entendre, un discours un peu anti-féministe qu'on entend parfois quand on essaie de parler de ses droits avec certaines personnes. Alors, heureusement, pas tout le monde, pas tous les hommes, c'est tant mieux. Mais malheureusement, il reste encore des gens qui ont du mal à comprendre qu'on puisse encore avoir ces discussions-là. Et encore une fois, l'exemple qu'a donné Yanni est un très bel exemple. C'était quand les femmes présentaient leur facture du travail domestique. Oui. Il se trouve qu'en France, s'il était compté, il représenterait 33% du PIB de France. Donc, chapeau aussi à toutes les femmes qui restent à la maison pour garder leurs enfants parce qu'elles contribuent aussi à prendre en considération cette charge, à prendre cette charge sur elles. C'est quelque chose qui peut se chiffrer aussi, la contribution des femmes au-delà dans la société. Donc je pense que cette discussion, il faut qu'on les garde ouverts et qu'on continue à pousser pour que ces sujets-là ne passent pas sous le tapis.
Oui, tout à fait. Et que ce ne soit pas un sujet de conflit entre hommes et femmes, mais au contraire un sujet de ralliement, qu'on puisse en discuter de manière reposée, constructive, apaisée.
Je suis d'accord. Il faut un discours constructif, il faut un discours collaboratif également. C'est un sujet sur lequel on peut collaborer dans une société où on est amené à vivre ensemble, on est dans des familles diverses, avec des compositions diverses. Donc on doit aussi être capable de s'adapter, de discuter, de rester ouvert sur ces sujets-là qui sont très importants.
J'ai une question, est-ce que vous avez déjà ressenti en tant que femme que vous devriez faire ou prouver davantage vos valeurs, que ce soit professionnelle ou dans la vie privée? Et comment vous avez surmonté ça?
Moi, je pense que j'ai vécu ça sur mon premier poste, en fait. Mon chef, donc, qui était un homme, était assez macho. Et du coup, il était très très intéressé par le foot. Et ça, c'était un lien direct avec tous les hommes qui arrivaient. Et c'était assez flagrant parce que j'ai été embauchée en même temps qu'un collègue homme. Et tout de suite, il y a eu une connexion entre eux et il y avait ce côté fraternité qui est tout de suite né entre deux et qui facilite beaucoup. Hein. Dans le travail, il y a beaucoup d'informel aussi. Et alors que moi, j'ai vraiment dû travailler, je devais être très sérieuse. Et si vous voulez, j'ai l'impression d'avoir acquis ce niveau de valeur à ses yeux uniquement après un certain temps où j'avais fait mes preuves intellectuelles et où j'avais montré ce que j'avais pu apporter à l'entreprise. Mais c'est la seule fois où ça s'est passé. Et comme l'a dit Yasmine, c'est vrai que l'industrie pharma, c'est un monde qui est assez féminin. Donc ça m'est vraiment arrivé qu'une seule fois et en général c'est pas un problème et je pense que ça m'avait frappée d'autant plus à l'époque, donc j'avais 24 ans parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression d'être une femme, dans le sens où le fait d'être une femme pouvait être un frein à quelque chose. Avant ça avait jamais été un souci, ni pendant mes études, ni pendant les petits boulots d'été, etc. Donc c'était assez frappant comme première expérience, je dois dire.
C'est incroyable.
Non, mais c'est vrai que moi, je trouve que parfois, les femmes sont moins prises au sérieux que les hommes dans certains milieux professionnels. J'ai eu cette expérience moi-même dans le passé, dans une entreprise où effectivement, même en réunion, on voyait que dès qu'on essayait d'en placer une, ben, en fait, on n'était pas forcément écouté, qu'il fallait essayer plusieurs fois pour être écouté. Là où un homme, il venait avec une idée, dès la première fois, il était écouté. Mais c'était, heureusement, là, c'était des environnements très spécifiques. Encore une fois, dans l'industrie pharmaceutique, c'est vrai que c'est des environnements plutôt féminins, on recherchait développement, donc on a moins ce souci-là, mais c'est des choses qu'on a quand même chacune, en tout cas, vécues à des moments différents, dans des environnements différents.
Moi, je vis ça au quotidien, j'ai envie de vous dire. Je suis entourée d'hommes, je suis la seule femme de mon service, et c'est vrai que c'est compliqué. Bon, ça fait des années que je suis dans l'automobile, je suis dans ma boîte depuis des années, mais s'imposer, c'est un travail du quotidien, s'imposer et pas se laisser approcher. Non, c'est très difficile. Comme a dit Yasmine, dans les réunions, c'est très compliqué d'en placer une. Après, on arrive en fait avec beaucoup d'efforts, des travaux. On doit travailler plus qu'un homme pour pouvoir se montrer, surtout dans des milieux masculins comme l'automobile, ça peut être le milieu de la construction ou autre. Donc c'est des choses qu'il y a encore du chemin à faire, mais on y arrive.
Oui, j'avais lu un livre sur ce sujet, c'était assez intéressant parce que ça parlait de cette asymétrie un peu de perception quand une femme prend la parole et quand un homme prend la parole. Il y a des études sur ça aussi, hein, c'est pas quelque chose qui est juste subjectif, même si ça peut l'être parfois, mais là en l'occurrence ça a été documenté et que souvent on suppose qu'un homme sait de quoi il parle jusqu'à preuve du contraire, tandis qu'une femme c'est souvent plutôt l'inverse. Et c'est là où ça devient un peu difficile. Avez-vous d'ailleurs, en parlant de ce genre de choses et puis en parlant de stéréotypes, avez-vous rencontré des stéréotypes de genre et comment avez-vous réagi ?
Alors moi, au niveau des stéréotypes de genre, je dirais que c'est presque l'inverse parce que j'étais dans l'enseignement. Oui. Et dans l'enseignement, on est petite école en maternelle pour les 3-6 ans. Et c'est vrai que c'est ultra féminisé. Et donc le stéréotype de genre, je dirais qu'il est inversé dans le sens où c'est très féminin. Et je trouve que c'est dommage parce que on a cette vision un petit peu de l'école maternelle. D'ailleurs, l'appellation a été remise en question hein, pour l'appeler l'école pré-élémentaire pour justement gommer ce stéréotype de genre de l'école au féminin ou en tout cas avec un côté maternant et pourquoi pas l'école paternelle. Ça a été soulevé il y a quelques années. Je trouve que c'est dommage que certains métiers, que ce soit l'enseignement ou d'autres, soient très genrés. C'est plutôt pour les femmes, c'est plutôt pour les hommes, alors qu'en fait, tout est ouvert à tout, en fait. Ce qui était difficile aussi dans ce métier en tant qu'enseignante, surtout avec les enfants petits, c'est plutôt le côté masculin qui avait du mal à se développer, à s'imposer, avec tout ce qui s'est passé en fait autour de l'ématique, des abus qui ont pu être faits. Et c'est vrai que j'ai rencontré souvent cette problématique, au contraire, chez les hommes qui avaient du mal à se positionner pour se sentir complètement sécurisés dans leur métier, de se dire ben, « moi, je suis là et c'est OK d'être là ». Je pense qu'il y a vraiment, là, c'est encore plus général sur l'éducation, sur le fait que ben, c'est pas parce qu'un enfant a moins de 6 ans qu'il va forcément être mieux avec une femme. C'est vraiment important, justement, que les deux genres soient représentés et qu'un enfant côtoie aussi des personnes masculines dans sa petite enfance, entre autres dans l'éducation.
C'est des exemples à montrer. C'est vrai qu'on dit souvent que les métiers du care, que ce soit les soins, les prises en charge des autres, le travail social, la santé, l'éducation, l'assistance à la personne, sont souvent des métiers de femmes. C'est ce qu'on constate. Donc les métiers du care restent majoritairement féminins, que ce soit à cause d'un mélange de normes sociales, hein, dont on va reparler, ou d'héritage historique ou de réalité économique. Et souvent, les études disent que pour que ça attire plus d'hommes, il faudrait une meilleure reconnaissance de ces professions et une remise en question des stéréotypes de genre. Donc, il y a deux choses là qui sont intéressantes. C'est déjà les femmes acceptent des choses que peut-être les hommes n'acceptent pas. Ils sont moins attirés par ces métiers-là. Et puis après, on va reparler des stéréotypes de genre et d'éducation que tu viens aussi de mentionner. Le fait qu'on ait une éducation où, dès l'enfance, les filles, souvent, hein, on peut le constater, sont encouragées à développer des qualités comme de l'empathie, la patience, le souci des autres, tandis que les garçons sont orientés vers des métiers plus techniques ou de leadership, ou de chef, ou de premier. Et donc, ça crée aussi, dès l'enfance, un certain biais, une construction qui pousse aussi les filles, qui vont devenir des femmes plus tard, vers ces métiers du care. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as remarqué dans le milieu de l'éducation ou...
Alors, en tout cas, j'ai remarqué vraiment des biais importants dans l'éducation, plutôt pour les garçons et plutôt pour les filles. On considère que, ben, souvent, pour pas essayer de faire une généralité des généralités, mais les filles sont sages, les filles sont scolaires, les filles sont calmes, elles aiment dessiner, écrire, faire des colliers de perles. Enfin, je parle des enfants de 3-6 ans. Hein. Alors que les garçons, on va plus accepter qu'ils soient plus remuants, plus qu'ils aient besoin de bouger, qu'ils aient besoin de faire du sport. Alors qu'en fait, on a tous les mêmes besoins. C'est pas parce que on est un garçon ou une fille qu'on a des besoins différents. Là, c'est vraiment une question d'éducation. Ou par exemple, les garçons qui ne sont pas faits pour danser. Moi, je trouve ça dommage parce que, en fait, j'ai même vu des petits garçons qui se retenaient du plaisir de danser, par exemple, lors de séances de sport, ou même mes propres enfants qui disaient « Ah, mais la danse, c'est nul, c'est pour les filles. » Et du coup, qui se retenaient de ce plaisir-là, qui retrouvent maintenant qu'ils sont plus âgés. Je trouve que ce serait vraiment important, que ce soit dans le milieu de l'enseignement ou de l'éducation, qu'il y ait vraiment une égalité de possibilités de s'exprimer aussi.
Oui. Il y a deux choses aussi. J'avais entendu dire une fois que, à cause de ces biais-là qu'on a, ou des stéréotypes qu'on a, souvent les petits garçons étaient même autorisés à plus de. Il y avait plus de largeur, en fait. Donc ils pouvaient faire plus de bêtises, on va dire, alors qu'une fille, c'était non, en fait. Toi, t'es censée être calme, donc toi, tu fais pas ça. Et donc on acceptait plus de choses des petits garçons. Et c'est vrai que ça a un rôle dès l'enfance sur l'éducation des enfants. Et puis l'école, je trouve, a un rôle à jouer également. Moi, je sais qu'on a essayé un peu de ne pas inculquer ou même essayer de travailler sur ces stéréotypes pour pas que ça impacte nos filles. Mais je peux voir que ma fille, dès la cour de récré, elle me dit « Ah non, ça c'est pour les garçons, ce jeu c'est pour les garçons, ce jeu pour les filles. » Souvent, ça me dérange un peu parce que j'aimerais qu'elle essaye aussi d'autres choses et qu'elle cherche ce qui lui plaît vraiment à elle. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué.
Mais ça a vachement évolué, je trouve. Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'étais petite... Bon, je suis pas grandie en France, mais je ne pouvais pas. Enfin, si j'ai joué avec des garçons après l'école, c'était mal vu. Et les filles devaient rester avec les filles, et les garçons ils sortaient de leur côté. Alors que maintenant, les filles et les garçons ils jouent ensemble, et je trouve que ça a vachement évolué et que c'est vachement intéressant de voir. Dans les écoles aussi, je vois qu'en fait ils parlent moins des une fille doit faire ça et un garçon doit faire ça. Et les professeurs actuellement ils sont plus dans ces questions de genre, ils montrent qu'en fait, il n'y a pas besoin de différencier les filles et les garçons, les façons de jouer, même les façons parfois de s'habiller. Un garçon, des fois, il faut savoir que les petits garçons, ils aiment beaucoup s'habiller en filles, des fois, et ils le font en cachette. Et après, en fait, quand ils grandissent, ils peuvent le faire. Enfin, je trouve que ce n'est pas pour ça que ça va enlever une question des féminités ou masculinités. C'est juste j'ai envie de faire ça à un moment donné et puis voilà. Enfin,
c'est juste une question de liberté primordiale, quoi.
Ouais. On va continuer à parler de tout ce qui est ce que vous avez vécu et on va parler des réussites. Est-ce que vous avez des réussites dont vous êtes particulièrement fière, Aurélie?
J'ai dû réfléchir longtemps. Je pense un truc dont je suis assez fière, je pense, c'est que j'ai l'impression d'être une maman qui est assez présente et qui joue avec les enfants. Et ça, c'était assez important pour moi parce que toute petite, j'ai eu une mère très présente, mais j'avais l'impression qu'il y avait une forme d'engagement pour elle. Vous voyez, c'était elle doit s'occuper des enfants. Donc elle s'occupait très bien de nous, etc. Mais il n'y avait pas cette dimension de jeu. Aussi parce qu'elle était écrasée par les tâches ménagères. Hein. Enfin voilà, mon père faisait s'occupait du jardin, faisait les impôts, très couple stéréotype d'il y a 30-40 ans. Et du coup, je trouve que là, on a réussi à trouver un assez bon équilibre avec mon compagnon. Et le fait d'être une maman par bonheur et par envie, c'est important pour moi parce que je pense que les enfants le sentent et du coup c'était important, voilà, que maman elle soit pas associée à quelqu'un qui est toujours surchargé, tout le temps en train de courir et qui s'occupe des soins des enfants, mais être aussi une maman jeu qui précédemment je pense c'était plus un rôle dévolu au père. Pour moi c'était vraiment important.
Et je peux confirmer, non seulement le fait avec tes enfants, mais avec des enfants des autres.
Oui, elle est très bien.
Et tout d'un coup, ils disparaissent tous. Ils sont tous avec Aurélie.
Ça permet aux autres parents d'avoir plus de
gratuit.
Un petit moment. En effet. Dis-nous, okay. Caroline. Alors.
Eh bien, moi, fierté également d'être maman, hein, même si maintenant, ils ont 12 et 15. Donc c'est un peu différent de quand ils sont plus jeunes. Ils ont moins besoin de moi aussi, en tout cas pas pour la même chose. Et moi, je dirais que ma réussite, particulièrement en ce moment, c'est ma reconversion professionnelle. Le fait d'avoir eu le courage, parce que ça m'a demandé quand même beaucoup de quitter l'éducation nationale, de faire une demande de rupture conventionnelle, de quitter la sécurité financière, hein, du salariat, d'être fonctionnaire public pour monter mon entreprise, pour créer mon activité, avec la création aussi de l'association Éclacréa à Châtillon, entre autres dédiée au théâtre d'improvisation. Oui, je dirais que ça, c'est ma grande fierté en ce moment. Et j'essaye d'en être fière parce que c'est vrai qu'on a... On a tendance un petit peu à se dire, bon, faut pas que j'en parle trop, enfin, d'essayer de faire grandir les choses un petit peu pour ensuite se faire connaître. Mais voilà, s'il y a une fierté aujourd'hui, je dirais que ce serait celle-ci.
Je pense que c'est important d'en parler et tu as raison. Parfois, en fait, quand je vois même dans la façon de communiquer, je trouve qu'il y a une différence entre femmes et hommes aussi. Je trouve que parfois aussi les hommes ont plus de facilité à communiquer alors qu'ils n'ont même pas encore commencé. Et c'est déjà un grand exploit. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile pour eux. J'espère que c'est un. Enfin, je ne sais pas si c'est un biais que j'ai ou si c'est réel. Mais je trouve qu'en tant que femme, même moi, j'ai parfois du mal à parler de mes réussites ou même à parler de mes projets avant que ça soit parfait, tout structuré. Super, alors que là ce que tu fais c'est déjà génial, tu t'es lancé, t'as pris ton courage à deux mains, t'as créé ton association, t'as créé ton activité, t'as quitté ta zone de confort et puis Aurélie aussi tu t'es battue contre des biais que tu avais eu avant et je pense qu'on a tout ça aussi, on a envie de se dépasser aussi personnellement, donc c'est nos batailles à nous et il faut en être fiers et il faut les porter. Je trouve que c'est
génial. T'en as des réussites?
Des réussites, bah, écoute, j'étais pas prête à
c'est ton moment.
C'est mon moment. Mais écoute, c'est vrai que comme a dit Aurélie, il y avait une réussite, c'était aussi de trouver un certain équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est pas toujours évident, mais pour moi c'était important et on en parlait aussi avec mon compagnon. Les deux, on a eu les deux parents qui travaillaient beaucoup et moi je voyais ma mère aussi également travailler beaucoup, donc c'est plus mon père qui s'occupait plus de nous. Donc lui était dans l'éducation nationale, donc c'était voilà parfait, hein, il était prêt pour le Caire. Et mon compagnon aussi avait la même chose où ses deux parents travaillaient beaucoup, donc ils n'étaient pas forcément disponibles à l'heure du dîner ou tous les soirs avec les enfants. Donc en fait, on essayait de se rendre disponible également pour trouver une certaine balance, un certain équilibre, je vais dire, entre nos vies professionnelles et personnelles. Et puis, côté professionnel, moi, ma réussite, c'est que je continue, je fonce malgré les obstacles. Et je me souviens, un des obstacles, notamment, c'est quand j'ai eu un enfant, on revient à ça. Donc, quand j'étais revenue après ma grossesse et mon accouchement, on avait parlé d'un certain projet professionnel. Et quand je suis revenue, ah non, tu veux pas rester là et faire ce que tu faisais avant parce que du coup, peut-être plus simple pour toi et puis comme ça tu pourras faire plus de télétravail et aller récupérer tes enfants. Et puis j'étais en face d'un homme et j'ai dit mais je ne t'ai pas demandé de réfléchir à ma place, à comment je vais m'organiser. On a parlé de ce projet et j'aimerais continuer dans ce projet. Puis très vite en fait j'ai réussi à me détacher de ça et à changer de travail et aller trouver quelque chose qui me correspondait plus et qui me permettait de m'épanouir et de réaliser mon projet professionnel sans vraiment impacter et sans que ce soit impacté par ma vie personnelle. Et je trouve que c'est des petits combats, c'est pas des choses, on va dire, qui ont été... pour moi, c'est une réussite et j'aimerais que mes filles voient que je continue, que je persiste, que je fais mon chemin malgré ce qui se passe autour et c'est pas important. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut pas. Voilà.
Et toi, Yanni, est-ce que tu as des réussites?
Merci, Caroline.
Pas de raison.
Alors, à part mon enfant, auquel j'essaie d'élever toute seule, parce que ma famille est très loin, et avec mon compagnon, bien sûr. Ma plus grande réussite aussi, c'est de d'avoir revenu en France il y a 20 ans. Je ne parlais pas un mot français. M'avoir intégré, avoir réussi professionnellement, et me reconvertir, parce que je suis en pleine reconversion aussi. Pouvoir être parmi nous, en fait, tout en une française. Voilà, enfin, je pense que c'est pour moi, c'est une grande réussite. Je ne me rends pas compte tous les jours, on m'a dit, mais regarde, t'es partie, où tu en es aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est énorme.
D'ailleurs, Yanni, parle-nous un peu plus de ta reconversion. Je pense que ça peut donner des idées, peut-être encourager d'autres femmes à se lancer. Parle-nous un peu de ton projet également.
Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, ça fait des années que j'étais dans l'automobile. Et je n'aimais pas trop ce que je faisais, même s'il y avait beaucoup de tâches auxquelles je me suis un peu attitrée moi-même. Parce que j'aime beaucoup la communication. Et un jour, je me suis dit, je vais faire une formation dans la communication, ce qui permettra d'échanger de secteur, enfin. Et puis, avoir une boîte d'outils pour mettre toutes mes idées, parce que j'ai plein d'idées tout le temps dans ma tête. Elle peut dire Yasmine.
Ah oui, ça fuse. Je vous montrerai l'historique de discussion. Ça y va. Plusieurs idées par jour.
Donc, mettre tout ça, structurer toutes mes idées pour pouvoir mettre des choses en place. Donc, depuis le mois d'octobre, je suis en master des communications. Voilà, et en même temps, on est avec Châtillon Bouge. Enfin, on essaie d'amener en même temps que ma formation, puisque c'est mon projet aussi des mémoires.
Oui, donc pour c'est ceux mon qui... parcours. Moi, je trouve ça courageux aussi de se dire à un moment, de se poser, de se dire oui, je veux essayer de nouvelles choses et de se lancer, de se former, de reprendre un peu aussi.
Il n'est jamais tard.
Cours, oui.
C'est ça, et à mon ça. Âge, je peux avoir des « Oh, tu retournes à l'école ?» Bah oui, c'est... Oui.
Bah, oui, bravo pour ça.
Bravo à toutes. On va faire une petite pause, mais c'est pas pour s'arrêter. On a choisi un morceau, mais c'est plutôt Aurélie aujourd'hui qui nous a choisi un morceau, donc « Don't Stop Me Now ». Surtout les filles, ne vous arrêtez pas là, on continue. Donc un petit morceau de Queen et on revient juste après la pause. Revenons donc à notre discussion et on va enchaîner sur l'équilibre dans nos vies. Comment trouvez-vous un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Si vous arrivez à trouver cet équilibre, moi je jongle tout le temps, j'arrive pas forcément à trouver cet équilibre. Est-ce que vous y arrivez ou pas?
Alors c'est une excellente question.
En ce qui me concerne, c'est vrai qu'il y a eu un gros changement de vie entre ma vie d'avant où j'étais maîtresse d'école, professeure, donc avec quasiment les mêmes horaires que mes enfants, et maintenant où je suis entrepreneur, je construis mon activité, je travaille à domicile en télétravail, je vais coworker, j'ai des horaires aussi le soir et le week-end. Donc, c'est vrai que c'est très différent et que là, parfois, c'est pas évident, ne serait-ce qu'au niveau des horaires. Par exemple, quand je donne mes ateliers d'impro le lundi soir et que j'ai mes enfants, ou bien que là, je donne un stage le week-end, il faut concilier tout ça. Donc, j'essaye petit à petit, mais j'avoue que c'est encore en chemin.
C'est vrai que je me suis toujours demandé comment tu faisais le soir après pour rentrer et enchaîner, et puis comment tu t'organisais. Moi, les jours où je suis seule avec les filles, je sais que j'ai du mal à venir au cours, et après, je suis là, mais j'aimerais bien y aller. Donc, parfois, j'essaie de m'organiser pour avoir un système de garde aussi, pour pouvoir avoir aussi ce moment à moi, qui est important aussi. Donc,
oui.
Chapeau. Hein.
Ben, en fait, c'est surtout parce que mes enfants ont grandi que je peux le faire. Oui. Si on est maman solo, de soutien à un certain moment où on a besoin de travailler, c'est compliqué. Là, ils ont grandi, ils ont 12 et 15, donc j'ai cette chance-là qu'ils n'aient plus besoin d'être gardés, sauf quand effectivement je peux terminer tard, quand moi-même je prends des cours d'impro et que je rentre, il est minuit. Là, je demande par exemple à mes parents ou à mon frère un peu de soutien familial, parce que si je ne suis pas là, ils ne vont pas se coucher. Je n'ai pas un modèle d'enfant qui va au lit tout seul, tranquille, à 21h, ils sont fatigués. Non. Si je ne suis pas là, ils restent sur les écrans, hein, comme malheureusement beaucoup d'enfants de notre époque. Mais par contre, l'avantage d'avoir créé mon association, c'est que j'ai pu choisir mes horaires. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un atelier pas trop tard, qui se termine à 21h30, ce qui me permet d'être à la maison quand j'ai mes enfants, rapidement, à 21h45. Vu que c'est juste à côté de chez moi, je rentre et ils peuvent aller se coucher sans que ce soit trop tard pour eux.
C'est vrai que même pour nous, c'est parfait, parce que moi je trouve 21h30, avant j'avais des cours de théâtre, je finissais à 22h, déjà je commençais à être fatiguée, le temps de rentrer, etc. Alors que là, ça donne un peu le temps de s'organiser et puis d'avoir du temps aussi, même après l'atelier, donc très bon choix d'horaire.
Ouais, merci. C'est un choix d'amant.
Hey, c'est très bien. Yannick, dis-nous tout. Est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre?
Moi, j'ai 2 heures de transport par jour pour aller travailler, ce qui fait que ça me prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai appris à profiter de ce temps. Je prends un bouquin parce que j'ai besoin d'avancer sur X ou Y. J'écris une émission pendant le transport. Donc, j'essaie de, dans mon malheur de perdre 2 heures de ma vie par jour, j'essaie de les prendre, de profiter pour qu'après, quand j'arrive à la maison, j'ai moins de choses à faire là-dessus. Et après, pouvoir m'occuper de mon enfant. Quand mon fils a commencé l'école, moi, je me suis dit, oh là là, il y a plein de mamans qui sont en télétravail, qui ramènent leur enfant le matin. Ils le récupèrent le soir. Moi, je ne peux pas faire ça. Je le récupère à 18h au centre, à la sortie de mon travail. Mais moi, j'aurais aimé passer plus de temps avec mon fils. Ça, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Mais j'ai envie de bosser aussi. J'ai envie d'avoir une vie de ma vie à moi, quoi, en tant que femme. Parce que moi, je ne pourrais pas rester toute la journée non plus à la maison, rien faire, ça, c'est pas moi. Mmh. Donc c'est un équilibre à avoir, et puis pas trop être sur le front femme-femme, pas trop être sur le front mère-mère pour pouvoir s'équilibrer en tant que femme. On a besoin de ça.
Oui, je pense qu'il ne faut pas essayer de réussir sur tous les tableaux en se disant qu'il faut que ce soit parfait là. Il faut trouver l'équilibre qui nous correspond à nous. C'est-à-dire que parfois, selon les désirs d'une personne, hein, comme tout être humain, on a des désirs différents, on a des souhaits différents. Donc, il faut juste trouver l'équilibre qui nous correspond à nous, qui fonctionne pour nous. Et pour te rassurer, je suis en télétravail, mais je ne peux pas récupérer ma fille à mon 18h non plus. Hein, c'est compliqué. Je ne sais pas, Aurélie, si toi, tu y arrives ou...
Non, pour être honnête, moi, quand ma fille, donc ma deuxième, est née, j'ai pris un poste en télétravail total, parce que du coup, logistiquement, c'était trop compliqué sinon. Mais même comme ça, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression qu'on est en mode survie depuis 6 ans. Donc là, on attend que les enfants grandissent, mais c'est compliqué. Et c'est vrai que la variable d'ajustement, en tout cas celle qui est la plus simple, c'est le temps pour soi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas de temps pour moi, parce que c'est les enfants en premier, après c'est la maison, et puis après, bah, il reste plus rien. Donc non, c'est très compliqué, moi, je trouve, de trouver un bon équilibre et à...
Oui. Je pense que c'est un sujet sociétal en dehors de hommes-femmes, le fait que la société ou le mode de vie actuel n'est pas très adapté à une vie de famille, il faut le dire, hein, c'est compliqué. Si on doit courir derrière plusieurs lièvres à la fois, forcément derrière il y en a un qui parfois passe à la trappe, et comme tu dis, souvent c'est le cas aussi pour moi, c'est le temps pour soi, le me time, hein, qu'on sacrifie, ou des projets qu'on fait reculer, pour lesquels on ne trouve pas le temps, mais ça reste à quelque chose d'intéressant en termes d'avenir sociétal sur ce qu'on veut et comment on s'organise pour l'avoir également. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut avoir des stratégies, hein, et des routines qui aident à gérer parfois la pression ou même la charge mentale, parce que c'est une charge mentale en
Alors
plus.
Moi, ce que je vous conseille, au lieu de travailler, c'est d'écouter notre podcast pendant les transports.
Alors c'est ça ta stratégie pour mieux gérer la pression, la charge mentale. Est-ce que vous avez des stratégies vous à conseiller ou...
Oui, bah faites travailler vos hommes, c'est.
Je pense que parfois c'est aussi même pour les hommes. Parfois c'est un sujet aussi surtout pour les parents. Mais derrière effectivement, il y a une répartition ou un équilibre à trouver dans les couples en général.
Après, c'est aussi les lieux de travail des hommes, où il y a deux écoles. Il y a la nouvelle école où les hommes, ils veulent beaucoup s'impliquer dans la vie des enfants et de la maison. Et il y a la vieille école où les hommes, ils avaient l'habitude de travailler tout le temps et que c'est la femme qui s'occupait des enfants. Et en fait, quand on a les deux, moi je ne l'ai pas vécu, mais je sais que mon mari, il le vit souvent au travail. Oui, il y a des gens qui disent, mais tu peux rester plus tard, ta femme elle est là, pourquoi est-ce que quand ton enfant est malade, tu prends aussi des congés, enfin, c'est aussi la pression sociétale, la pression au travail qui fait qu'en fait, il y a des hommes qui ont du mal à il faut avoir du courage aussi de détacher tout ça et pouvoir dire, non, mais moi, j'ai une famille, je fonde une famille, c'est pour m'occuper de ma famille, des bons enfants. Et puis pouvoir dire, bon, bah, mon travail, c'est mon travail, mais j'ai aussi autre chose à faire.
Oui, complètement.
Oui, je trouve qu'il y a heureusement d'ailleurs de plus en plus d'hommes aussi qui s'impliquent, qui se sentent concernés par ça et qui du coup cherchent aussi à revoir la répartition dans leur couple. Et puis une pensée aussi pour les mamans solo par exemple, ouais, qui doivent gérer ça toutes seules et qui ont voilà, c'est un sujet aussi parce que on réfléchit en tant que modèle, on va dire là le modèle où on voit les parents etc, mais il y a beaucoup de parents solo et de mamans solo qui doivent se débrouiller toutes seules, et je pense que là les techniques doivent forcément être différentes, et je leur tire chapeau également parce que voilà, je trouve que c'est de jongler entre sa vie, la vie des enfants, les besoins, les priorités, c'est un sujet également. On va parler, là, on va peut-être un peu s'éloigner un peu de ce sujet de charge mentale dont je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui et qu'on entend parler et reparler un peu de cette répartition. Et on va peut-être parler maintenant de passer à la sororité, passer à vos modèles en tant que femme. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des modèles en tant que femme aussi ? Sinon, hein, si vous avez des mentors, est-ce que vous avez déjà bénéficié de soutien d'une femme qui vous a aidé dans votre parcours ?
Eh bien, oui, moi, j'ai la chance d'être bien entourée. Je pense que je provoque aussi, parce que je recherche beaucoup, justement, de soutien dans mon entourage. Peut-être aussi, comme tu disais, parce que je suis maman solo et que j'ai déjà beaucoup de choses à gérer. Je pense aussi, on parle pas forcément suffisamment de ce qui est santé mentale au travail, santé mentale dans la famille. C'est vrai que moi, en plus, j'y suis particulièrement sensible parce que j'ai connu le burn-out dans mon travail et j'ai justement vraiment envie de trouver un vrai équilibre entre ma vie perso, ma vie pro, ma vie sociale et toutes les vies qu'on peut avoir, en fait. ça, c'est vraiment important. Et la sororité, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert pleinement il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à faire des retraites ressourçantes entre femmes, avec des cercles de femmes, avec de la danse, avec vraiment du partage profond, puissant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je continue à faire perdurer en participant moi-même à des cercles. J'en anime aussi, d'ailleurs, des cercles de femmes et des cercles mixtes aussi. Et c'est vrai que dans les cercles de femmes, on trouve beaucoup de soutien, de compréhension, d'empathie spontanée. On n'a pas forcément besoin d'expliquer les choses et on ne se sent pas coupable de vivre certaines choses qui sont parfois difficiles. Ce qui est important aussi, on va parler de Châtillon. À Châtillon, il y a un espace magnifique qui s'appelle l'espace Gisèle Halimi, anciennement l'espace femme. C'est vraiment un espace de soutien pour les femmes de Châtillon et quelles que soient leurs envies ou leurs problématiques. C'est aussi un grand soutien pour les femmes qui peuvent être victimes de violences, qui peuvent retrouver un refuge, un espace bienveillant, d'écoute, de non-jugement. Ça, c'est vraiment important. Et moi, j'ai découvert cet espace, en fait, par le sujet de ma reconversion professionnelle. C'est aussi un espace où on peut venir faire du coworking, qui est ouvert tous les jeudis au coworking, où on peut venir y travailler en autonomie, qui est animé par deux femmes merveilleuses, que sont Elsa et Sylvie. Je leur tire mon chapeau parce que vraiment, elles font vraiment du bon travail. Et Elsa était très soutenante, entre autres moi aussi, pour mon activité professionnelle. Donc la sororité, c'est vraiment important. J'ai eu l'occasion de soutenir aussi les femmes à mon échelle quand j'ai proposé un stage d'improvisation avec la ville de Châtillon, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, pour les femmes de l'espace de Gisèle Halimi, justement, où on a travaillé sur l'estime de soi et booster la confiance en soi par le théâtre d'improvisation. Donc c'était vraiment de beaux moments de partage, de connexion, d'échange, de rire, de co-construction d'histoires ensemble, de personnages. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et je voudrais parler aussi de Femmes des Territoires, qui est une association nationale de soutien aux femmes entrepreneurs, qui permet justement de pouvoir créer son entreprise. Et moi, j'y ai trouvé beaucoup de soutien dans un moment où je me reconvertissais, où là, maintenant, je suis dans l'action, mais où je réfléchissais. Ça permet d'échanger, de soutenir, de mieux comprendre les choses et où, en fait, on obtient un soutien du mentorat de la part d'autres femmes qui font part de leurs expériences, de leurs difficultés, de leurs réussites. Et ça permet vraiment d'avancer sur son chemin, à son rythme et en toute bienveillance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
Je suis d'accord, mais c'est génial. T'as pas mal de projets et puis de participation dans des réseaux féminins et je trouve ça génial parce que du coup c'est de l'échange, de l'entraide et c'est important de nourrir et de se nourrir de ça également. Moi, je me souviens, j'ai fait à un moment partie d'une association Elle Bouge qui encourageait notamment les jeunes filles à aller vers des carrières un peu moins classiques, donc faire des études plus poussées ou des études plus en maths, en informatique, des choses vers lesquelles elles vont pas forcément en aéronautique. Et c'est des choses qui m'avaient marqué parce que c'était souvent des jeunes filles donc, qui venaient d'avoir leur bac ou qui allaient passer leur bac et qui vraiment dès le départ s'interdisaient de penser à ce genre de choses et ne se sentaient pas capables d'aller vers ce genre de choses. Donc je pense que c'est toujours important d'avoir ces réseaux, que ça soit pour encourager des plus jeunes mais également pour s'entraider et pour aussi apprendre les uns des autres et les uns des expériences des autres également.
Et quelle importance accordez-vous à tout ça, enfin à la sororité aujourd'hui? Toutes les femmes ne sont pas dans ce mode, j'ai envie de dire. Je sais qu'il y a des femmes qui se tirent les mains sous les pattes, surtout dans les milieux où il n'y a que des femmes. Je suis dans un milieu masculin, mais je ne pourrais pas non plus être dans un milieu avec que des femmes où elles se tirent sous les pattes, où elles ne sont pas très franches. Donc je trouve que les mouvements de sororité, c'est très important en fait, pour se soutenir entre nous.
Tout à fait.
Oui.
Et moi, par exemple, hier, je suis allée à un salon des entrepreneurs pour les femmes, qui était organisée par l'ADI, ADIE, qui propose beaucoup de soutien aux jeunes entrepreneurs, femmes ou hommes, mais là, en l'occurrence, qui avait fait un salon exclusivement féminin. Donc ça existe et il y en a plusieurs et vraiment, c'est encourageant de se dire que... Parce que dans l'entrepreneuriat, entre autres, les femmes donc, sont moins représentées et osent moins entreprendre pour diverses raisons. Mais donc c'est important de se soutenir et de se soutenir aussi au quotidien entre femmes, même évidemment... en dehors du travail et de créer des réseaux, même simplement un groupe WhatsApp de maman ou un groupe WhatsApp de sortie entre filles.
Oui, les groupes de soutien, en fait,
tout
qu'on
à
retrouve.
Fait.
Et il y en a plein, d'ailleurs, en ligne. C'est vrai qu'il y en a plein. Il faut juste oser aussi y aller, s'ouvrir aussi. Et je pense que c'est le plus difficile, de trouver ce pas un peu pour
tout
y
à
aller.
Fait. De créer du lien, d'oser dire ben, « moi, j'aimerais bien créer du lien avec d'autres personnes » ou « rencontrer de nouvelles personnes » et on n'ose pas toujours.
C'est marrant parce qu'en fait... quand on a commencé à parler de la sororité, je me sentais pas du tout concernée, parce que le fait d'être une femme, c'est quelque chose qui est assez accessoire, je dirais, dans ma vie. Je me sens pas femme, je me sens être humain d'abord. Mais en fait, c'est quand même... Les relations entre femmes ont quelque chose de très spécial qui est, je pense, qu'on apporte tout de suite une dimension émotionnelle. Et là, quand Yanni et Yasmine m'ont proposé de venir là, c'était compliqué de trouver l'heure ou l'heure et demie qu'il fallait, etc. Et je me suis dit, ah ouais, mais en même temps, ça me fait plaisir de passer une après-midi entre filles. Et parce que c'est toujours des moments intéressants et je trouve qu'il y a des discussions qui sont toujours assez personnelles. Et c'est ça la vraie différence avec quand on discute avec un ou des hommes. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai eu lors de mon premier poste aussi, à un moment, donc j'avais une chef directe qui était une femme. Et très vite, on est rentré, comme tout devenait très vite émotionnel, en fait, il y a eu une espèce de compétition qui s'est installée, etc. Et donc, Yanni, c'est ce que tu mentionnes il y a quelques minutes, c'était compliqué. Et donc, je me rappelle avoir discuté avec des hommes en disant, donc moi, je disais, oh, moi, finalement, je préfère travailler avec des hommes. Et les hommes m'ont dit la même chose. Nous, on préfère travailler avec des hommes. Je dis, mais mince. Et en fait, je pense qu'il y a une fausse simplicité quand il n'y a que des hommes dans une équipe, parce que j'ai aussi été dans des équipes où il y avait beaucoup d'hommes, et tout est beaucoup plus direct. Oui. Et je pense que la subtilité, sans vouloir tomber dans le cliché, mais cette dimension supplémentaire qui est apportée par la présence ne serait-ce que d'une femme, elle est importante. Et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas le même rôle, même sur des métiers où on se dit que tout est carré, tout est un peu mathématique, comme en statistique. Je pense que c'est important d'avoir cette mixité. Et néanmoins, le fait d'être entre femmes, c'est quelque chose qui est assez précieux et que je chéris maintenant, et c'était pas le cas du tout il y a quelques années.
Oui, je pense que la mixité est essentielle aussi pour la représentation aussi d'hommes et de femmes dans le milieu du travail, mais aussi pour la créativité, pour l'efficacité. Ça apporte, la diversité déjà en général apporte, mais encore plus aussi s'assurer qu'il y ait une présence équilibrée d'hommes et de femmes dans le milieu du travail. C'est aussi un sujet dans les militants, où les femmes ont milité très longtemps aussi pour leur présence dans le milieu du travail, pour avoir plus d'équité, plus d'égalité. Donc, et je trouve que la sororité aide aussi à avoir ça, c'est-à-dire que des femmes s'aident un peu à la courte échelle, un peu pour s'aider, pour se dépasser, pour aller plus loin. Moi, j'ai eu des mentors femmes. Première mentor dans le milieu professionnel, d'ailleurs, qui m'a marquée, était une femme. Et dès le départ, oui, au départ, c'était un peu compliqué. Voilà, c'est le milieu du travail. Mais elle a réussi aussi à me pousser, à me dépasser. Et je trouve que c'est un exemple aussi de sororité, d'avoir des mentors comme ça qui poussent et qui te montrent que tu peux aller au-delà de tes limites, qui t'ouvrent aussi la voie, qui t'ouvrent des portes. En l'occurrence, elle m'avait ouvert des portes en essayant de me donner plus d'opportunités. Et c'est un sujet important de s'entraider également entre femmes et de ne pas penser uniquement à la compétition un peu, mais aussi de s'entraider parce qu'en aidant les autres à évoluer, ça nous ouvre aussi des voies et ça ouvre des fois aux autres générations d'évoluer. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas des femmes qui avaient essayé avant certains métiers, aujourd'hui, on n'y serait pas représentées. S'il n'y avait pas des femmes qui avaient recruté aussi des femmes et qui s'en dépassaient, aujourd'hui, on aurait encore plus de limites et on aurait des limites qui nous auraient empêchées peut-être d'accomplir notre fort potentiel, on va dire. Mais voilà, c'est une idée sur la sororité. En parlant de ça et de mentorat, si vous pouviez donner un conseil peut-être aujourd'hui à une jeune fille qui hésite à se lancer dans un domaine encore dominé par les hommes ou dans un, dans l'aéronautique ou dans l'informatique, souvent. Que diriez-vous à des jeunes filles aujourd'hui qui se cherchent et qui cherchent sur leur projet ?
Moi, je pense que je leur dirais qu'il faut qu'elles croient en elles et qu'elles ne voient surtout pas leur genre comme étant une limite, mais plutôt comme une valeur ajoutée. Et ça, c'est vrai quel que soit le domaine, je pense. Enfin, j'en suis intimement convaincue.
Sûrement aussi de s'entourer, d'aller chercher du soutien, des exemples, des mentors, de pouvoir aller aussi dans des structures qui peuvent les aider. Il y a beaucoup de structures maintenant qui aident les jeunes professionnellement. Et entre autres, sur Châtillon, il y a aussi le BIJ, Bureau d'information jeunesse, qui peut les aider sur Châtillon même. Et évidemment, il y en a un petit peu partout. Et puis, on pense aussi souvent à évoluer professionnellement dans le salariat, mais ça peut être aussi créer son entreprise. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir, que ce soit la Maison des Entrepreneurs, il y a une antenne à Fontenay-aux-Roses, il y en a une à Bagneux, au BIJ aussi, ils aident justement les jeunes à se renseigner pour créer leur entreprise. Et c'est tout à fait à la portée des jeunes qui le souhaitent, avec du soutien et de pouvoir effectivement comprendre les tenants, les aboutissants, toutes les contraintes et également toutes les ouvertures dans le monde de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat. Parce que dans l'entrepreneuriat, vraiment, moi, ce que je vis actuellement, c'est ce qui est très puissant, c'est qu'en fait, on peut totalement créer son activité. Et je pense que la jeune génération qui arrive, comme on dit, la génération Z, la jeune Z, ce qui ressort de ce que j'observe, ils ont vraiment très fort ce besoin d'autonomie, de s'épanouir dans la vie personnelle, de ne pas passer leur temps au boulot. Je trouve que pour ça, ils sont vraiment un exemple pour des générations plus anciennes où c'était le travail avant tout, le travail, c'est la santé, etc. Et là, ils sont vraiment dans une idée, ok, je veux travailler pour gagner ma vie et c'est normal, mais je ne veux pas me sacrifier, je ne veux pas sacrifier ma vie perso, je veux avoir du temps de loisir, je ne vais pas rester au boulot jusqu'à 20h tous les soirs. Et ça, pour prenons exemple sur eux.
Ils ont raison. Je pense que c'est un peu la philosophie, c'est celle que je m'ai toujours donnée, hein. C'est prendre le travail avec plaisir. Prendre le travail pour pouvoir payer ses factures, mais aussi il faut profiter de la vie, parce que en fait la vie avant tout, si on n'a pas des santé, des vies, on ne pourrait même pas aller au travail. Donc ils ont raison, ces jeunes. je suis d'accord avec eux.
Oui, puis c'est une génération, je pense qu'il veut explorer plein de choses, découvrir plein de choses, et c'est bien. C'est vrai que nous-mêmes, on ressent ce besoin d'explorer diverses choses, peut-être d'essayer plusieurs choses. Je crois que moi, mon conseil serait vraiment le réseau, se faire du réseau dès le début, aller, comme tu as dit, vers les autres, mais également aller à des événements, à des salons, discuter avec les gens, même si c'est difficile, même quand on est timide. Mais même un contact, c'est déjà commencer à se faire un réseau et puis apprendre de ce réseau. Et je crois d'ailleurs que tu nous avais parlé de Cocoon.
Oui,
on parle de réseau. Et j'ai trouvé l'idée pas mal, en fait, de ce cercle d'entrepreneurs et pour ceux qui veulent se lancer. Est-ce que tu nous dirais un peu plus? Tu nous en dirais
oui,
un peu plus?
Oui, tout à fait. En fait, spontanément, entre femmes entrepreneurs l'année dernière, on a eu l'envie de créer un cercle d'entrepreneurs sur Châtillon. Parce que sur Châtillon, il y avait peu de choses destinées à l'entrepreneuriat. Et donc, on a eu envie, justement, de pouvoir créer du réseau, mais un réseau de proximité. Parce qu'il y a énormément de choses, vu qu'on est en région parisienne, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Paris. Mais sur Châtillon, pas énormément pour les entrepreneurs, les commerçants, les freelances, les indépendants. Donc, on a eu envie de créer ce temps de convivialité. Là, c'est vraiment basé sur la convivialité. C'est un temps d'apéro informel où on vient pour networker, comme on dit, pour se rencontrer, pour savoir déjà que on existe, que notre voisin, peut-être que lui, il a créé une entreprise qui peut nous intéresser et de développer peut-être un partenariat, de pouvoir se recommander et juste de s'intéresser en fait les uns aux autres. Ça fait déjà un bien fou et de pouvoir partager et peut-être ensuite créer des partenariats et des synergies, c'est vraiment intéressant.
Une belle leçon et on a hâte de voir un peu ce projet. Et puis je pense qu'on viendra à une de vos apéros, peut-être que ça nous donnera l'envie de se lancer.
Avec grand plaisir, on est en train de voir pour établir une date là au mois d'avril parce qu'on est toutes très occupées et on essaye de caler une date pour proposer ça, donc on vous tiendra au courant.
Avec plaisir.
Oui, on vous partagera l'info.
Alors moi, ce que je voudrais dire aux jeunes filles, c'est ne vous mettez pas des barrières. Allez-y, tout est possible dans la vie. C'est un peu ma philosophie, je dis ça souvent à mon fils, c'est que tout est possible. Je ne vois rien d'impossible dans la vie. Si tu as envie de faire ça, donne-toi les moyens et vas-y, fonce. C'est très très important. Et si on ne réussit pas, c'est pas grave, on revient. C'est aussi ce que j'ai pu tirer de ma vie. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, je l'ai fait. Un peu tard, des fois, un peu tôt sur certaines choses, mais c'est ce que j'ai à dire. Allez-y, foncez. Et pas qu'aux filles, aussi aux garçons, à tout le monde. Et en tant que femme, qu'est-ce que vous voudriez laisser comme héritage aux générations qui arrivent?
Alors, comme héritage, disons que moi, j'ai décidé de changer de vie professionnelle pour aller vers ma joie et mon enthousiasme. Donc, et je pense que c'est vraiment, moi, ce qui m'aide le plus dans ma vie professionnelle, parce que voilà, comme n'importe quelle vie professionnelle, c'est pas toujours les jours faciles de réaliser ce qu'on a envie de faire. Il y a des réussites, il y a des échecs, mais de pouvoir trouver vraiment une vocation, quelque chose qui nous porte, ça aide vraiment. Donc je pense que s'il y avait quelque chose, ce serait vraiment de pouvoir trouver quelque chose qui nous porte, qui nous donne de la joie et de l'enthousiasme au quotidien pour permettre d'avancer et d'être heureux dans sa vie de tous les jours, même au travail.
Aurélie, t'as rien.
Elle a été troublée.
Tu n'as pas d'héritage.
C'est horrible.
Question philosophique.
Alors, j'ai entendu un truc. Hein. J'ai entendu quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qui est femme, mais c'est plutôt pour la planète. Mais ça pourrait être aussi apparier à la discussion femme. C'est qu'il y a quelqu'un qui a dit on se bat pour laisser une belle planète aux enfants. et aux futures générations, mais battons-nous aussi pour laisser des bonnes générations. C'est-à-dire qu'il faut éduquer aussi aux enfants à vivre dans ce monde-là et à vivre et à pouvoir aider la planète aussi. Et je pense que ça peut s'appareiller là-dessus aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que ça va un peu en lien avec transmettre des valeurs, oui, etc. Je ne sais pas, quand j'ai essayé de réfléchir à la question, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais transmettre? Et je me suis dit, voilà, je laisse deux enfants. Peut-être que, et c'est peut-être un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, mais vous savez, quand on est jeune, parfois on se dit, oh, je vais inventer un truc extraordinaire, je vais sauver le monde, etc. Oui. Et puis, ça n'arrive pas tout le temps, en fait. Et du coup, j'essaye déjà de ne pas reporter tous mes espoirs sur mes enfants, en me disant, voilà, si déjà je leur apprends à être joyeux, si je leur montre qu'on peut être un adulte éco-responsable, qui fait des choses qu'il aime et qui essaye de faire un peu de bien autour de lui-même, ce sera déjà pas mal. Du coup, je pense que ça va être ça, mon ambition. Voilà, d'être aussi heureuse que possible pour être un modèle pour mes enfants.
Je trouve ça très beau, hein, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on pense tous à ce qu'on va laisser. Effectivement, quand on est plus jeune, on pense à plein de choses, mais il faut savoir aussi peut-être... se recentrer et voir un peu l'essentiel, qu'est-ce qui est essentiel à laisser en héritage. Et parfois, c'est pas forcément quelque chose de très bling-bling, mais des choses qui ont des valeurs. Et les valeurs, c'est quelque chose d'important à transmettre. Moi, dans mon cas, je sais que j'essaie de perpétuer des histoires de femmes courageuses de ma famille et de mes grands-mères à mes enfants. Et c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. Donc, j'essaie toujours de leur raconter un peu leur vie, de leur donner des exemples qui peuvent leur servir aussi, de leur donner un peu de l'inspiration sur les personnes qu'elles veulent être, en l'occurrence. Et j'aimerais aussi être un modèle pour elles ou peut-être pour les futures générations et qu'elles se disent, OK, bon, elle a essayé, elle a fait des choses, elle a vécu sa vie et puis elle ne s'est pas laissée abattre, on va dire, ou elle ne s'est pas laissée surpasser par les challenges qu'on a actuellement dans notre société. Donc, je trouve que là, on a fait quand même une belle table ronde et j'apprécie vraiment.
On va écouter un peu de musique, peut-être.
Oui, avant d'écouter la musique, je crois qu'on va peut-être juste avoir un message final.
Oui, aussi.
Pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être celles qui doutent d'elles-mêmes, ou peut-être on peut aussi finir sur un vœu, hein, pour les femmes, pour la situation des femmes, ou peut-être sur vos projets. Je vous laisse, hein, vous exprimer sur comment vous souhaitez clôturer cette table ronde. J'espère que vous avez aimé cette discussion. Nous, en tout cas, on a été ravis de vous avoir pour cette discussion. On pourrait continuer pendant des heures, donc retenez-moi.
Eh bien, en tout cas, moi, ça a été vraiment un beau moment de partage, de rire, de vous découvrir un peu plus, de faire connaissance aussi. Donc, merci pour ça, merci pour l'invitation. Et c'était un très beau sujet de discussion autour du 8 mars, de la Journée internationale du droit des femmes. Et comment est-ce qu'effectivement, on peut rediscuter la place des genres, des stéréotypes, de la place des femmes dans la société, dans l'entreprise, dans la vie de tous les jours, l'éducation des enfants et comment se soutenir, que ce soit intergénérationnel ou entre femmes ou entre hommes et femmes. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait plein de beaux sujets qui étaient abordés ici. Et merci beaucoup et merci aussi à toutes les propositions qui sont faites sur la ville de Châtillon, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour soutenir les femmes, pour soutenir les projets, pour tout ça. Donc continuons et avançons ensemble.
Moi aussi je voudrais vous remercier, c'était un super moment, c'était vraiment très agréable. Et peut-être, quand j'essaie de résumer dans ma tête ce que c'est être une femme, je trouve qu'être une femme, c'est essayer de trouver un équilibre entre les rôles qu'on se donne et les rôles qu'on nous donne, entre être une amie, une sœur, une mère, une fille, tout ça. Donc voilà, c'est aussi des choses qui se définissent, et à chacune de trouver son propre équilibre et ce qu'elle veut être.
Je trouve ça très bon, encore une fois, vos conclusions, j'aime beaucoup.
Moi aussi.
Je ne le dirai pas mieux. Moi, j'insisterai sur la sororité et puis sur les modèles qu'on donne pour les générations qui arrivent. Je trouve que c'est important en tant que femme aujourd'hui de préserver les droits qu'on a pu acquérir grâce aux femmes qui étaient là avant. En l'occurrence, je pense aux générations d'avant, je pense à mes grands-mères, comment elles se sont battues dans leur vie. Également, je pense qu'il faut continuer à trouver sa place, à vraiment se faire l'espace dont on a besoin en tant que femme. Et j'aimerais que les futures générations gardent ça en tête et continuent sur cette voie-là.
Oui. Moi, j'ai envie de dire que dans la société, il y a ce que les gens attendent de nous et ce qu'on a envie. Et des fois, on se limite à ce qu'on a envie pour faire plaisir à ce que les gens attendent de nous. J'ai envie de dire, faites-vous plaisir, c'est très important. Parce que comme ça, on va être épanoui. Tendez pas non plus, les gens viennent vous dire ou viennent vous tendre la main. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. C'est très important.
Très bien, on vous remercie. Pour bien finir cette table ronde avec ces merveilleux invités aujourd'hui,
on va se détendre un peu.
on va se détendre. Un morceau choisi par Caroline, notre deuxième invitée, comme d'habitude. Donc nos invités choisissent nos morceaux. On se retrouve juste après pour une petite session question flash. Donc c'est notre tradition quand on a des invités ici. C'est vraiment des questions sur un peu Châtillon et puis savoir vos préférences et vos endroits préférés. Juste après la chanson.
À tout de suite. Et voilà nous pour les questions flash. Donc, comme Jasmine disait tout à l'heure, à chaque invité, on lui demande des questions sur Châtillon, des questions qui vont très vite, auxquelles on peut répondre par un mot, par des choses très simples. Et on va voir si on a des affinités avec les autres invités, parce que des fois, il y a des questions qui reviennent à chaque fois. Alors, votre endroit préféré à Châtillon, c'est ?
Alors, moi, j'en ai plusieurs, mais j'aime bien aller me poser dans un café pour travailler ou prendre le temps avec un ou une amie. D'ailleurs, un de mes endroits favoris s'appelle le Nami Châtillon, un nouveau café qui vient d'ouvrir sur la place Maison Blanche, qui s'appelle d'ailleurs, je crois maintenant, la place Badinter.
Oui, c'est ça.
J'arrive jamais. Voilà, donc un petit coup de pouce et un petit clin d'œil parce que voilà, ils ont ouvert il y a pas longtemps et ils méritent d'être soutenus.
Et elles ont l'air sympas en plus, les filles.
Elles sont très sympas.
Il y a été pour les célébrations du Nouvel An asiatique et c'était très sympa. Et j'avoue, je me pose aussi parfois là-bas le mercredi en attendant ma fille.
Aurélie ?
Et moi, j'aime beaucoup le parc des Sarments.
Comme ça ne m'étonne pas.
Ça revient tellement, cette réponse. C'est le plus grand parc de Châtillon, je pense. Ça revient souvent, cette réponse.
Oui.
Bon, allons passer à la deuxième question. Si vous deviez organiser un événement 100% féminin à Châtillon, ce serait quoi et où ?
Alors évidemment, pour moi, un stage d'impro. Comme on l'a déjà fait pour l'espace Gisèle Halimi. Mais voilà, un stage d'improvisation, que ce soit pour les femmes ou les femmes entrepreneurs, ou bien des cercles de parole. Cercles de parole pour les femmes.
Oui, moi je dirais ce que j'appelle un café parlotte chez Bergamote et Gramme Café, j'aime beaucoup.
Ah, c'était notre première invitée au podcast. C'est elle qui a ouvert le bal.
Ah, Agnès était notre première.
Qu'on salue, elle nous suit, elle nous écoute souvent.
Super.
Alors, passons à la prochaine question, Yannick.
Alors, Châtillon en 3 mois, comment le décrirez-vous ?
3 mots.
Ah, 3 mots, pardon.
3 mois, ça va être long, là. Je pense que vous avez le temps, là.
Janvier, février, mars, voilà. Donc, Châtillon en 3 mots, comment décrirez-vous ?
Je dirais sororité, parce qu'il y a beaucoup de femmes à Châtillon avec qui je trouve, auprès de qui je trouve du soutien et que j'aime soutenir aussi. Sororité, convivialité, il y a plein de lieux sur Châtillon en plus qui ouvrent et qui se développent, et culture, il y a pas mal de choses pour la culture, le théâtre, le cinéma, la maison des enfants, le conservatoire, voilà, la culture.
Ouais, je suis assez d'accord avec Caroline, moi j'avais pensé convivialité tout de suite, je trouve qu'il y a beaucoup d'événements etc., oui. Rassemblants, je dirais famille aussi, parce que Châtillon il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de choses faites pour les enfants et c'est très appréciable, et aussi je dirais humanité. Parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont pensées dans le bon sens, en tout cas dans le sens de mes valeurs, sur les pistes cyclables, des choses comme ça. Donc voilà.
C'est génial. On va continuer un peu sur tout ça. Et là, on va passer à une initiative locale qui vous inspire le plus à Châtillon.
Moi, je dirais Châtillon bouge.
C'est une très belle initiative locale. Alors, pour continuer sur le même élan, je dirais Éclat Créa, une association pour des ateliers, des stages d'improvisation pour vous épanouir et vous faire du bien et créer du lien.
Alors moi, c'est une initiative qui n'est pas locale mais plutôt départementale, je dirais le défi zéro déchet et tout ce qui est associé avec la distribution des lombricomposteurs, etc. Je trouve que c'est vraiment...
Et c'est une très belle initiative.
Alors, une chanson qui n'a pas, enfin, n'a rien à voir
de bonne humeur,
mais qui vous met de bonne humeur,
qui vous motive. Alors moi, ce serait Happy de Pharrell Williams.
Ah oui.
Et moi, j'aime beaucoup Don't Stop Me Now que vous avez.
On l'a bien. Donc c'est la chanson avec laquelle vous aimez vous réveiller ou oui.
Ouais.
C'est vrai que ça met la pêche, hein, les deux.
Alors j'aime beaucoup aussi pour le matin des chansons de Polo et Pan. Avec par exemple Feel Good, chansons très aériennes et assez pop, très sympa.
Il faut savoir que Caroline nous fait également écouter des chansons de la musique en début de cours d'impro.
Oui,
ça aide à vraiment couper. Ouais. Donc on connaît un peu sa playlist et on peut vous dire que ça a l'air sympa. En tout cas, merci encore à vous toutes pour vos témoignages, vos idées, votre énergie. Vous êtes la preuve que Châtillon bouge, continue de bouger, que les femmes sont au cœur de cette dynamique.
Un grand merci d'avoir participé. On est ravis de vous avoir eu, comme on a dit tout à l'heure. Ou pas.
Oui. Merci.
Okay.
Et c'est un grand plaisir partagé. Merci encore pour l'invitation.
Merci.
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 Juste avant de revenir sur les actualités du mois à Châtillon, nous allons revenir sur un événement qui a lieu dans la soirée du 8 mars à la Maison Blanche, qui est un événement spécialement dédié à la Journée internationale des droits de la femme. Et nous avons avec nous Linda Fallet. Bonjour Linda, bienvenue. Peux-tu nous en dire un peu plus sur du coup, qui tu es ? Et je pense que beaucoup de Châtillonnais te connaissent déjà, pour commencer.
Oui, bonjour. Alors, donc, Linda Fallet, je suis maire adjointe à la santé et aux solidarités avec la délégation égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Je suis aussi vice-présidente du Centre communal d'action sociale et conseillère territoriale.
Oui, on souhaitait également en profiter pour revenir un peu sur les projets de ces dernières années sur Châtillon, autour donc des droits des femmes, mais également d'autres sujets. Donc, en savoir un peu plus sur les projets que vous avez portés ces dernières années, puisque ça a apporté également aux femmes de Châtillon.
Alors, depuis 2020, on a énormément avancé. On partait de rien. Première délégation égalité femmes-hommes sur la ville de Châtillon, avec un réel défi à comment faire pour rattraper le temps perdu. Nous avons avancé très vite. Les projets phares, alors il y en a eu plusieurs en fin de compte, puisque l'idée, pour moi, résolument dès le début, c'était de ne pas faire de one-shot. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une date clé, 25 novembre, 8 mars, nous étions dans la capacité de proposer un projet pérenne. Donc on a d'abord fait les sensibilisations à l'accueil des femmes victimes de violences et aussi contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Donc les agences sont formées chaque 25 novembre et chaque 8 mars depuis le début de la mandature. Ça, c'est une action phare. Ensuite, nous avons effectué un rapprochement avec le Centre Flora Tristan, qui est un centre qui héberge des femmes victimes de violences, afin de leur donner, en tout cas, plus de place sur notre ville, avec une subvention. Jusqu'alors, ils n'étaient pas subventionnés, mais aussi un travail en étroite collaboration. Nous avons créé, dans l'espace public, des QR codes pour les femmes victimes de violences. Nous avons, et la maire en a parlé tout à l'heure, sur la question du métro aussi, hein, se sentir en sécurité dans la ville, donc initier des marches exploratoires afin de pouvoir détecter où les femmes se sentaient pas très bien, en tout cas pas à l'aise et avaient ce sentiment d'insécurité sur des problèmes qu'on pouvait parfois régler. Il suffisait d'un peu de lumière ou bien de couper quelques arbustes parce qu'il y en avait trop. Donc ça, c'est des choses que nous avons enclenchées. Nous avons aussi signé dernièrement une convention avec Vallée Sud Grand Paris, le Centre Flora Tristan et le Centre communal d'action sociale pour des logements pérennes. Parce que, soyons clairs, ce qu'il manque aujourd'hui aux femmes, en tout cas qui sont victimes de violences conjugales, c'est la peur de ne pas être logées. D'accord ? Donc ça, pour nous, en tant que commune, il était important de pouvoir agir dans ce domaine. Et puis, il y a tout un tas d'autres actions, et notamment l'ouverture de l'espace Gisèle Halimi, cet espace qu'on a voulu, avec un nom, on le sait tout, hein, cette avocate imminente et militante féministe, ça faisait écho, il nous paraissait important dans la ville de lui donner ce nom. C'est un lieu où il y a beaucoup de sororité, où le vivre ensemble, et en tout cas le partage, le lien social, la santé, les ressources intellectuelles, la possibilité de travailler du coup en coworking. Il y a une auberge espagnole qui est créée. Enfin, vraiment, l'idée, c'était d'y mettre tout ce qu'on pouvait y mettre à l'intérieur. Et ça fonctionne, et ça fonctionne bien. L'espace Gisèle Halimi a un an maintenant. Et nous sommes bien partis. Donc, il accueille évidemment toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur origine, et tous les quartiers de Châtillon.
Donc, alors, je pourrais vous en dire des tonnes hein, sur ce qu'on a fait. Je vous cite quelques exemples. Je peux dire par contre qu'aujourd'hui, très clairement, Châtillon est résolument féministe.
Et ça fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai qu'on peut voir nous-mêmes, on a entendu parler de l'espace digital à l'IMI, des événements autour également. Je voulais en profiter pour revenir sur l'événement qui est organisé cette année, donc à l'espace Maison Blanche pour la soirée du 8 mars, pour célébrer les succès également des femmes, puis voir aussi des témoignages de femmes. Et je pense que c'est important aussi, vous avez parlé de sororité, c'est important d'avoir ce type d'événement, notamment pour créer du lien entre les femmes châtillonnaises, mais également pour partager des expériences et écouter des témoignages pour être sensibilisé à ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur pourquoi cet événement est organisé, quelle est la symbolique derrière qu'on essaie de créer ?
Alors, donc, comme je vous disais, tous les ans, il y a une action avec voilà, des signatures de conventions, des avancées pour les femmes sur la ville et pour les châtillonnaises, évidemment. Cette année, en fait, j'ai voulu quelque chose de festive. Parce que déjà, on est dans une période qui est morose. Enfin, soyons très clairs.
Oui, l'actualité n'est pas très rassurante pour les droits de la femme, en effet. À l'international et dans des pays, en plus, qui sont proches. Pas des pays qui ont l'habitude d'avoir ce type de sujet. Donc, c'est vrai que ça crée une certaine angoisse.
Voilà. Et donc, en partant de ça, j'ai dit aux équipes, cette année, je veux quelque chose de festif. Pas pour faire la fête, mais on a eu aussi plein de victoires. On va les savourer ensemble. Il y a une exposition sur les avancées, parce que ce qui me semble aussi important, c'est de transmettre tout ce qui s'est passé. Parce qu'on parle beaucoup de la journée, quand on parle de la journée, qu'est-ce que ça veut dire pour les jeunes, en fin de compte? Alors, ils apprennent hein, dans l'histoire, mais on passe souvent sur des plans d'histoire. Et l'idée, c'était de transmettre avec cette exposition tout ce qui s'est passé depuis le départ. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose aussi, c'était de se dire on a beaucoup avancé sur la ville de Châtillon, mais on n'a pas avancé seul, en fait. Moi, résolument, évidemment, féministe, j'ai avancé avec mes équipes, mais j'ai avancé avec les châtillonnaises. On a créé très vite un groupe qui s'appelle Ensemble pour les châtillonnaises, parce que l'idée, c'était de réfléchir avec tout le monde. C'est un groupe mixte, parce que, pour le coup, ce groupe-là, moi, je ne sais pas faire sans mixité. Les hommes ont besoin de s'investir avec nous, ils ont besoin aussi de comprendre les choses. Et je suis pour un féministe universaliste, donc il n'y a pas d'exclusion, on peut travailler ensemble. Et on est parti aussi d'eux sur tous ces projets-là, et ça nous semblait très très important que ce groupe Ensemble pour les châtillonnaises soit présent à chaque fois, et qu'il puisse nous questionner en tout cas sur ce que nous pouvons mettre en place. Et puis ces témoignages, comme vous dites, parce que les témoignages qu'on a eus là, ce sont des personnes qui ont pris leur stylo, qui ont écrit à la mairie, qui m'ont écrit, que j'ai reçu, parce que je l'ai dit et je le redis, toutes les paroles comptent, en fait. Il y a besoin de ce lien, en tout cas avec l'élu qu'on peut penser, en tout cas avec la femme que je suis, la féministe. Et quand ça fait écho, et ben en fait, c'est mettre toutes les compétences des châtillonnaises, quand c'est possible, ben pour les châtillonnais et châtillonnaises, et pour nous faire avancer aussi. Donc ces témoignages étaient là pour ça. Puis vous entendez, il y a la musique.
Oui, enfin,
voilà,
oui,
il y a aussi le côté évidemment festif, parce que c'est une belle réussite. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur ce 8 mars à Châtillon.
Bah, super, écoutez, merci. Nous, on est ravis d'être là, d'avoir écouté ces témoignages, et puis d'avoir découvert des choses, hein, d'avoir découvert des personnes aussi à Châtillon qui sont porteurs de projets. On vous remercie de nous avoir accordé du temps hein, pour cette rapide discussion. J'espère vous revoir très bientôt. Merci Linda Fallu.
Merci à vous.
Merci. On enchaîne tout de suite avec une autre personne qui est bien implémentée dans le milieu châtillonnais et qui est également très impliquée dans les événements autour du 8 mars. Yanni, tu vas nous en parler davantage ?
Oui, pour la fin de la soirée, nous allons rencontrer Linda aussi, Ocean, qui est chef du service des préventions et des citoyennetés, responsable aussi de l'espace JC à l'IMI. Alors Linda, bonsoir.
Bonsoir.
Parle-nous un peu de vous, de ce que vous faites à Châtillon, de ce que vous faites aussi pour les femmes et de cette soirée.
D'accord, alors bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Linda Afiane, je suis engagée sur la ville depuis près de 4 années, ça va faire ma 5e année. et la volonté municipale a été d'impulser la politique égalité femmes-hommes, mais également tout ce qui est autour de la défense des droits des femmes. Et on sait tous très bien que le combat continue et que les droits ne sont jamais tous acquis. Alors, je suis aussi responsable de l'espace Gisèle Halimi, qui est un espace qui a été aussi voulu par la municipalité pour qu'il puisse axer sur la promotion des femmes au sein de la cité avec un grand C et au sein de la société avec un grand S, en permettant d'offrir à toutes les femmes l'accès à la culture, aux loisirs, à la santé, à l'insertion professionnelle, mais également le lien social et tout ce qui peut faire grandir une femme dans sa vie, la rendre plus autonome, la rendre plus heureuse et qu'elle puisse aussi accéder à des choses peut-être qu'elle ne peut pas accéder dans sa vie de tous les jours.
Ben merci, merci Linda et merci pour cette soirée qui est formidable. Je pense que vous êtes derrière cette soirée aussi parce que tout ce qu'on entend, tous les bruits, la musique, ça fait partie du folklore de la soirée. Donc parle-nous un peu de cette soirée qui réunit autant de femmes.
Alors voilà, chaque année nous célébrons les droits des femmes et souvent sur des dispositifs qui sont pérennes, qui se couplent aussi avec la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc là, Madame Fally, qui est l'adjointe à Madame la maire sur cette référence-là, a voulu que ce soit un moment festif, mais en même temps que ce soit bordé ou jalonné de témoignages de femmes de Châtillon, châtillonnaises, qui ont eu un parcours de résilience et dont ces témoignages peuvent servir aussi à d'autres femmes, comme le disait Léa Millet, oser.
Oui. C'est le message de la soirée.
C'est
aussi
ce que je disais aussi aujourd'hui lors de notre enregistrement, ne pas se mettre des barrières et foncer.
Et faut oser. J'ai eu un parcours aussi où j'ai osé. Et le fait d'oser, c'est jamais un échec. Parce qu'on a osé, on a été jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire.
C'est une réussite.
Et c'est une réussite dans sa vie, dans son parcours. Oser les femmes, parce que vraiment, on est d'une capacité à laquelle parfois on doute. Oui. Et non, on a la capacité et on a la force d'aller jusqu'au bout de ses rêves.
Oui.
Puis célébrer les succès aussi, hein, comme
absolument.
Ça.
Absolument.
Pour célébrer les succès.
Voilà.
Oui, et on est toutes légitimes. N'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout de vos idées, de vos pensées, oui. De vous imposer.
Oui.
C'est comme ça qu'on va y réussir.
Oui. Et c'est comme ça que tous les combats de l'histoire ont été menés. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui aussi on a nos droits aussi. C'est parce que d'autres femmes ont osé et ont persévéré et ont combattu, parfois difficilement, mais elles ont combattu quand même. Donc le combat continue parce que les droits ne sont jamais acquis, comme le dit l'actualité et comme on le voit dans toutes les actualités. Exactement. Même en Espagne pour l'IVG, aux États-Unis pour l'IVG également. Voilà, donc combat continue.
Le combat continue.
Oui.
Tellement de la soirée aussi.
Continuons.
Continuons.
Ben merci Linda.
Et ben je vous en prie, merci à vous aussi.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.